Bonjour à tous, merci d'être venus nous rejoindre pour passer une heure et demie avec Maria de Medeiros. Je ne sais pas si c'est nécessaire de présenter Maria de Medeiros. Vous l'avez sans doute tous vu dans un film, tous aperçu son visage depuis combien de temps maintenant? Vous aviez 15 ans quand vous avez démarré au cinéma. Maria de Medeiros qui a une carrière totalement internationale, une vie très internationale aussi, et qui donc colle très bien à cette idée de métissage qui est un peu le thème aussi sous-jacent à toutes ces rencontres. Donc on va évoquer tout ça avec vous, vos diverses influences, votre carrière, le cinéma, le théâtre, les films d'auteur, Hollywood. Pour démarrer autant par le commencement, donc je crois que vous êtes né à Lisbonne et puis rapidement vous avez passé votre enfance à Vienne. Est-ce que vous gardez des souvenirs très très jeunes de Lisbonne, ou c'est après uniquement à votre retour que vous avez commencé à avoir une vision de la ville?
Alors d'abord bonsoir, je suis très heureuse d'être ici pour cette nouvelle expérience. Merci d'être là. Merci Catherine Clément. Effectivement, toute mon enfance a été imprégnée de métissage, dans le sens où je suis née à Lisbonne, mais tout de suite après, mes parents m'ont emmenée à Vienne, en Autriche, où mon père avait fait des études à l'Académie de musique. Voilà, c'est un musicien. Et après, il y est resté. Ce n'étaient pas des exilés de fait, mais c'était des gens qui préféraient être un peu loin de la dictature qui régnait au Portugal. Et donc j'ai des souvenirs très viennois. Je me sens très très viennoise. Des souvenirs très imprégnés de musique. Voilà, il y avait des musiciens à la maison tous les jours. Et puis j'ai des souvenirs de vacances. On traversait pour revenir au Portugal toute l'Europe. Et ça, c'est quelque chose, je m'en aperçois maintenant, qui a totalement marqué ma vie. On le faisait parfois en train, mais souvent en voiture. Et nous partions avec nos parents. Et voilà, on partait de l'Autriche, on arrivait en Italie. Et là, ma mère, qui était très douée pour les langues, tout d'un coup, elle passait de l'allemand, paf, elle passait à l'italien, elle nous surprenait tout d'un coup, elle se... Ciao, buongiorno, hein. Et après, paf, on passait en France, là, son français admirable arrivait. Après, on passait en Espagne pour arriver enfin en Portugal. Et donc, ma petite enfance a été marquée par cette trajectoire européenne. Et je m'aperçois à quel point cela est encore ma vie, ça, cet itinéraire transeuropéen avec tout ce passage des langues et des cultures.
Et votre carrière après a été marquée aussi par ça, ou c'est au fil des hasards que vous avez tourné à la fois au Portugal, en France, en Espagne, aux États-Unis, ou dès le début vous êtes sentie un peu artiste nomade, un peu...
Oui, je pense que j'ai été marquée par ce nomadisme. Et quel qu'eût été mon choix comme ça professionnel, ça aurait été certainement une profession qui me porte au voyage et au contact avec d'autres cultures. Je pense que ça m'a été vraiment inculqué, comme d'autres choses qui sont restées, comme une certaine aversion à toutes les formes de fascisme, des choses comme ça qui m'ont été inculquées dans ma tendre enfance. Et j'en suis plutôt reconnaissante à mes parents.
Alors justement, quelle image vous aviez du Portugal à cette époque, vous exilé, voyant la dictature? On vous en dressait un portrait horrible, ou au contraire toute la famille attendait la délivrance, qui a d'ailleurs fini par venir?
Oui. Alors justement, le propre de la dictature, c'est qu'on ne parle pas beaucoup. Certes, à l'étranger, on pouvait parler un peu plus librement, mais en fait, je me suis vraiment aperçue qu'il y avait une dictature le jour où j'ai vu à Vienne, dans notre salon, mes parents sauter de joie, mais littéralement sauter de joie, comme ça, dans une euphorie que je ne leur avais jamais vue. Et c'était le jour du 25 avril 1974. Et c'est là que j'avais compris qu'en fait, toutes les années avant avaient été des années noires, des années de dictature.
Et vous êtes rentrée tout de suite ?
On est rentrée très vite, oui, quelques mois après.
Et c'était une espèce de liesse de...
Oui, c'était une grande liesse. Ça a été un bouleversement à tout point de vue. Ma mère était journaliste, elle était journaliste politique. Bon, elle n'exerçait pas beaucoup pendant la dictature. Alors à la suite, bien sûr, avec la Révolution, tout d'un coup, pour elle, ça a été un plongeon dans la vie active incroyable. Parce que voilà, elle est rentrée dans des quotidiens, des hebdomadaires, elle écrivait à droite, à gauche, partout. Enfin, elle a interviewé. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer personnellement presque tous les principaux protagonistes de la révolution des œillets, parce qu'ils passaient à la maison, parce que je suivais ma mère dans les bars, dans les cafés où elle allait les rencontrer, et j'ai assisté à certaines interviews, conversations, et donc je dois beaucoup aussi à cette période-là où j'ai pu prendre contact avec une démocratie en train de se faire et de se faire de fait, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on nous balance qu'on peut instaurer des démocraties en jetant des bombes sur des pays. Et en fait, j'ai eu la chance d'assister dans mon enfance à cette construction d'une démocratie. Il y a un épisode donc bien sûr, tout ça, je me suis rendu compte après.
Oui, ça vous a servi
de l'importance, oui.
Parce que Capitaine d'Avril.
Quand on revenait donc à la suite de la révolution des œillets, beaucoup, beaucoup de personnes, des milliers de personnes sont revenues du monde entier vers le Portugal. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes, de gens qui sont revenus d'Afrique. Il y avait tous les exilés, les gens qui avaient fui le service militaire qui étaient dans le monde entier, qui sont rentrés. Donc ça fait un afflux énorme à Lisbonne, donc personne n'avait d'appartement. Et nous, comme presque tout le monde, avons vécu un an à l'hôtel, dans un hôtel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle York House, et qui est un hôtel assez connu parce que on dit qu'un des romans de Hesed Kairos se serait passé là, où je m'aille. Voilà, ce qui était une belle maison, 19e. Et donc, dans cet hôtel, il y avait je me souviens, il y avait une femme qui était le chef d'une tribu matriarcale, qui était revenue d'Afrique, qui était métissée. Je pense que ça me revient parce que je suis dans ce musée. Et il y avait vraiment des gens de tous bords. Il y avait des espions internationaux, bien évidemment. Il y avait des reporters. Il y avait un mélange vraiment très intéressant dans cet hôtel. Et nous étions les enfants qui jouions là. Et je me souviens que pendant qu'on jouait dehors, il y a un très beau patio. Au bar, il y avait les premiers députés de la démocratie qui discutaient la nouvelle constitution. Et nous, on chopait des bribes comme ça pendant qu'on jouait. Ça, c'est une expérience incroyable.
Et vous alliez à l'école, ça vous a totalement dévoré pendant le temps que.
Alors
ça
ça fait de nous, de tous les gens de ma génération, des gens très très politisés.
Oui.
Ce qu'on n'était pas avant, mais tout d'un coup, tout le monde est devenu un animal politique au Portugal. Il n'y avait pas moyen de s'en échapper. Nous, on allait à l'école au lycée français. Parce qu'on avait commencé la scolarité au lycée français à Vienne, parce que c'était ce qui se rapprochait de plus à notre culture. Il n'y avait pas d'école portugaise, mais les Portugais se divisent entre francophiles et anglophiles, et nous, on était décidés.
Clairement francophiles.
Donc, on allait au lycée français, mais ça ne nous empêchait pas du tout d'avoir des discussions. On avait 9-10 ans, on se disait, ah non, avec lui, je ne vais pas jouer parce que c'est un capitaliste. Oh, non, non, je ne vais pas avec eux parce que c'est des communistes. Et tous les jeux d'enfants étaient comme ça, teintés de politique. Ouais.
Et le monde artistique bouillonnait de la même manière ou...
Oui, je pense que les gens avaient le sentiment d'une grande libération. Et oui, il y avait une effervescence, il y avait énormément de concerts. Il y avait des choses qui n'existent plus maintenant, mais c'est très... C'est très drôle parce que on retrouve maintenant tant d'années après, je retrouve des gens, par exemple, on en parlera certainement après, mais le directeur du musée de Serralves à Porto, où s'est déroulé l'anniversaire de Manuel de Oliveira, il m'a dit, on se connaît d'un festival de la paix. Parce que, je sais pas si en France il y a eu, mais au Portugal, pendant ces années-là, il y avait sans cesse des festivals de la paix où tous les artistes se présentaient. Il y avait une grande effervescence, sans doute.
Et alors, vous avez plongé très tôt, puisque à 15 ans, vous tournez votre premier film, donc avec João César Monteiro. Comment est-ce que ça s'est fait? Et puis, parlez-nous de ce personnage, donc, qui est quand même assez extraordinaire, qu'on a vu dans plusieurs films, qui joue souvent le premier rôle de ses films, qui est quelqu'un d'assez squelettique, oui, avec une démarche très particulière, un univers très particulier aussi, qui est mort malheureusement il y a quelques années et qui a tourné quelques films dont le personnage principal s'appelait Jean de Dieu et qu'il a traîné comme ça. Alors comment vous êtes retrouvé avec lui? C'était, je ne sais plus quel était le film, c'était Sylvestre.
Sylvestre, ouais. Alors je ne me destinais pas du tout au cinéma, personne n'y avait pensé. Je pensais faire les beaux-arts très tôt. C'était clair pour moi que c'était ça que j'avais envie de faire. Ma famille disait, oui, non, Maria, elle, c'est la peinture. Et jusqu'à l'arrivée de João César Monteiro dans nos vies, parce que c'était un ami de ma mère. Et João César Monteiro est un très grand créateur, je pense, au Portugal, et effectivement, c'était une figure qui faisait un peu peur, très Dostoïevski. C'est vraiment Dostoïevski qui me vient à l'esprit quand je pense à lui. Mais c'est aussi c'est un satyre, c'est un grand pervers.
Dostoïevski un peu obsédé, oui, quand même.
Obsédé sexuel absolu. Et je me dis, c'est quand même incroyable que, voilà, à 15 ans, mais c'était pas du tout comme aujourd'hui, on a très peur pour les enfants, des agressions sexuelles, etc. Et en toute bonne foi, ma mère dit, ah oui, il t'a invité pour faire le rôle protagoniste de son rôle, mais vas-y, alors que c'était vraiment un satire notoire.
Mais ça s'est bien passé, visiblement.
Oui, ça a été... C'était magnifique de découvrir le cinéma... vraiment par cette perspective-là, par la perspective du cinéma d'auteur. On ne peut plus d'auteur que celui-là. Et ça a déterminé une famille pour moi, une famille cinématographique, artistique. Nombre des personnes que j'ai rencontrées sur ce tout premier film sont encore des gens que j'admire beaucoup, avec lesquels j'ai une grande amitié, comme Luís Miguel Sintra, l'acteur de tant de films portugais, de tant de films de Manuel de Oliveira, ou d'autres collaborateurs qui sont encore, bien sûr, des gens qui font du cinéma. Mais même l'histoire de Sylvestre, qui est un film un peu à la Perceval de Galois de Romer, c'est une histoire médiévale, et de jeune femme médiévale qui s'en va, qui est à la recherche de son père, alors elle s'en va à la guerre, elle se travestit en garçon. Voilà, c'est une très jolie histoire, mais très évidemment vue par João César, elle écrit par João César, qui était un immense écrivain. C'est très pervers, c'est très très étonnant, très intéressant.
Et ça, vous l'aviez senti, ça, cette dimension?
Oui. À 15 ans, je pense qu'on sent. Ouais.
Et comment ça s'est passé? Alors, ces premiers contacts avec les plateaux, avec lesquels vous n'aviez jamais joué, oui, ça a été une découverte totale. Oui, oui. Vous avez travaillé, répété, ou au contraire, vous parlez de Perceval, un peu comme Lucchini, oui, chez Romer, vous êtes laissé porter par la direction.
Alors, nous, on était un peu au courant, parce que João César, elle avait commencé ce film, Sylvestre, avec d'autres acteurs et en extérieur. Et il venait souvent à la maison dîner, et puis il n'était pas content de ce qu'il faisait. Non, ça n'allait pas. Hein. Et donc nous, on entendait parler de ce film qui était déjà en train de se tourner. Et quand il a dépensé la moitié du budget, il a dit, non, décidément, c'est pas ça que je veux faire. Maintenant, je veux tout faire en studio. Il ne lui restait plus que l'autre moitié du budget. Il a dit, et d'ailleurs, je vais prendre Maria pour faire le rôle. Et voilà, il a tout chamboulé. Et Paulo Branco, le producteur, qui a ce mérite vraiment de suivre les artistes comme ça, de suivre un cinéma qui est un cinéma d'auteur où tout est possible finalement, parce qu'en fait quand on a très peu d'argent, parfois on est plus libre quand on en a beaucoup. Et voilà, il a accepté ça. Et donc ce film dont j'avais entendu parler, ben, tout d'un coup j'étais dedans, mais c'était un autre film où tout était en carton-pâte. Et il y avait une méthode qui à l'époque était très très moderne, qui s'appelait le transflex, où il y avait un écran où on projetait tout bêtement des photos, mais à l'époque c'était censé être ultra moderne. Voilà.
Et c'est là que vous avez attrapé le démon de la comédie.
Alors ça m'a plu. J'ai trouvé ça très, du point de vue de l'affect. Ça m'a paru très, très beau, oui, de faire un travail en commun comme ça, avec une grande équipe. Je n'avais jamais travaillé avec une grande équipe comme ça. Mais ça n'a pas du tout déterminé de choix de carrière à ce moment-là. J'ai continué ma scolarité. Là est arrivé quelqu'un qui a beaucoup influencé ma vie, qui était mon professeur de philosophie.
Oui.
Je pense que quand on a la chance d'avoir un bon prof de philosophie, c'est un univers qui s'ouvre. Celui-ci était vraiment exceptionnel, Philippe Friedman. Il a marqué beaucoup tous les gens qu'il a rencontrés. C'était un passionné de théâtre. Alors, il nous a fait découvrir la philosophie et il nous a fait découvrir le théâtre. Il nous a fait jouer comme on était tous des fils à papa. Alors, il y avait le fils du directeur du Théâtre National, qui est comme la Comédie Française là-bas. Donc, évidemment, on est allé jouer au Théâtre National pour notre premier petit spectacle qui était d'ailleurs très ambitieux. C'était les Coefforts d'Eschyle. On est allé carrément dans le plus grand théâtre de Lisbonne. L'année suivante, on a fait aussi une pièce très ambitieuse, Mahagoni de Brecht. On a eu un très, très beau théâtre aussi, le Théâtre Municipal Saint-Louis à Lisbonne. Et ça a commencé à... Oui, je trouvais que c'était décidément pas mal de faire l'actrice, etc. Mais Philippe Friedman, il m'a vraiment poussée aux fesses dans le sens... j'ai décidé que je ferais philo, plus les beaux-arts, mais philo. Et il a dit... il m'a inscrit lui-même à Louis le Grand, à Hippocagne. Et moi, je ne savais même pas ce que c'était Hippocagne, mais... je suis arrivée ici, j'étais inscrite par mon professeur, il a fait les démarches, tatata. Et là, en même temps, il a dit, mais essaye quand même les écoles de théâtre. Et un autre ami m'a poussé un peu pour que je présente les écoles de théâtre, pour que je présente la rue Blanche.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ça a été un nouveau déménagement, alors.
C'était clair que je viendrais ici pour faire des études. Oui. Voilà, ça pouvait être les beaux-arts, ça pouvait être la philo. Donc, j'ai commencé Hippocagne. Cet ami m'a dit, non, il faut absolument qu'on présente la rue Blanche. Bon, ça a été épique parce que je n'avais pas le temps d'apprendre mon texte pour passer ces concours qui sont balèzes, qui sont vraiment difficiles, de la rue Blanche. Et alors, je me souviens, on avait une scène imposée qui était La Mouette de Tchekhov. Et j'avais eu le temps d'apprendre le texte jusqu'à un certain point, parce qu'après, il fallait que je bosse pour Hippocagne. Et j'ai eu la chance incroyable, juste au moment... Et je n'avais même pas de gens pour me donner la réplique. Donc j'ai pris quelqu'un qui était là, qui était gentiment, s'est présenté, m'a donné la réplique. Donc c'était fait dans la précarité la plus absolue. Et au moment où j'arrivais, au moment où je ne savais plus mon texte, on m'a dit « Merci mademoiselle ». Ça a sauvé ma vie et ça m'a fait rentrer à la rue Blanche.
Et le conservatoire, ça a été après ?
Et le conservatoire, c'était après l'itinéraire classique.
Oui.
Nombre d'entre nous qui étions à la rue Blanche, où j'ai rencontré Brigitte Jacques, qui a été là aussi quelqu'un de très important.
Oui. Voilà,
et donc j'ai commencé déjà à faire Elvire Jouvet avec Brigitte Jacques avant d'entrer au conservatoire. Et donc après, on a été une flopée à entrer au conservatoire. Oui.
Et là, vous avez eu Michel Bouquet et Jean-Pierre Vincent comme professeur.
Comme professeur.
C'est des grands souvenirs, ça ?
Oui.
Oui.
Oui, Michel Bouquet, je pense que c'est un... là aussi, pour tous ceux qui sont passés dans son cours, c'est un souvenir inoubliable. C'est un maître dans le sens où il n'est pas là pour vous apprendre des trucs. D'ailleurs, il ne nous a jamais enseigné rien. Quand je vois les cours, les cours des anglo-saxons, c'est, ça paraît tellement dérisoire parce que j'ai vu certains cours acteurs studio, des choses comme ça, où des acteurs américains avec qui j'ai travaillé me disaient, alors attention, parce que si tu parles de choses un peu amoureuses et sensuelles, ne te mets jamais droit devant ton partenaire. Il faut être toujours un peu de biais. Et il faut faire comme si, il faut faire comme ça. Alors, bien sûr, les cours de Michel Bouquet, rien à voir à l'opposé. Michel Bouquet, c'est un philosophe, c'est un artiste dans le sens où il a un regard sur le monde. Et ce que je garde de ses cours, c'est qu'il arrivait comme un grand-père, comme le grand-père qu'on aurait tous rêvé avoir, très parfaitement habillé, avec sa cravate. Et puis il commençait à parler de Molière, de Corneille, de Racine. Et puis il commençait à s'échauffer, à s'échauffer, à s'échauffer. Et tout d'un coup, il était échevelé, ses cheveux déjà dansaient sur sa tête, sa cravate était de travers. Il était, voilà, et il pouvait se fâcher contre le monde entier. Et il bramait des choses, hein, et puis il remettait son imperméable, il disait à demain, et le cours était fini. Et nous, on était là comme deux ronds de flanc, et on avait appris tout sur le théâtre, voilà.
Et Elvire Jouvet s'est greffée là-dessus à ce moment-là. Alors, Elvire Jouvet 40 est une pièce dont j'avoue que le nom de l'auteur m'échappe, mais que vous avez joué avec Philippe Clévenot, et qui raconte donc une leçon de théâtre de Louis Jouvet.
Alors l'auteur c'est Louis Jouvet lui-même, parce que Louis D'accord. Jouvet était lui aussi un grand maître. D'ailleurs les cours de Michel Bouquet me faisaient beaucoup penser à ceux de Jouvet, c'est dans la ligne directe. Et Louis Jouvet savait à quel point ses cours étaient passionnants. Et c'est pour ça qu'il avait une sténographe dans ses cours, qui prenait méthodiquement tout ce qui était dit, et par lui et par les élèves. Et donc ses cours ont été publiés. Et Brigitte Jacques a décidé de prendre les cours avec une élève en particulier qui travaillait le rôle d'Elvire dans Don Juan, et d'en faire une pièce de théâtre. Mais c'est les mots historiques de Jouvet et de ses élèves. Et c'est une histoire très émouvante parce que tout ça se passait en 40. C'est pour ça que ça s'appelle Elvire Jouvet 40. Et cet élève était, c'était bien parti pour elle. Et donc c'était la préparation parce qu'il y avait ce fameux concours du conservatoire qui était très déterminant pour les élèves à cette époque-là. Et à la suite du concours, où je pense qu'elle a été première ou une des premières, elle a été dénoncée comme juive. Et c'était la fin de sa carrière pour cette femme qui s'appelait Paula de Hély. Et qu'on a rencontré à l'époque quand on a fait le spectacle. Voilà. Et Clévenot jouait Louis Jouvet.
Et Benoît Jacquot, après, on a fait un...
Et Benoît Jacquot, on a fait un film. Ouais.
Le cinéma, vous avez commencé en parallèle en France à retourner en même temps que vous formiez au théâtre.
Oui. Mon premier film en France a été avec Chantal Akerman, ouais. J'ai faim, j'ai froid.
Qui était un court-métrage.
Qui était un court-métrage intégré dans le Paris vu par 20
C'est
ans
ça,
après.
Voilà.
Et puis j'ai aussi profité du matériel des écoles de théâtre pour commencer à faire des films moi-même, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été toujours parallèle à mon travail comme actrice, d'être aussi de l'autre côté.
Et là aussi avec un niveau d'exigence, que vous avez adapté Beckett, Pessoa pour vos courts-métrages. Donc c'était à l'époque, vous étiez vraiment engagé dans une démarche de cinéma d'auteur et de à fond. Mm-hmm. Avec Akerman, comment ça s'est passé?
C'était magnifique. Enfin, c'était le premier film à Paris. Ouais. On était tellement naïves toutes. C'est tellement jeune. C'est une aventure incroyable.
Vous avez toujours mené en parallèle comme ça théâtre et cinéma sans avoir envie de faire de choix ou...
Ah oui, non, je déteste faire des choix.
Ouais.
Pourquoi choisir?
Non, ça c'est vrai. C'est très différent, le théâtre et le cinéma?
Non, justement, je trouve que ce qui est beau, est justement, bien sûr, c'est des techniques un peu différentes, mais ce qui qui passe d'un côté à l'autre. Je pense que ce qu'on apprend au théâtre est très utile pour le cinéma. Je pense qu'un acteur doit être passé par le théâtre, parce que c'est la preuve du corps entier. Par contre, le cinéma nous apprend à faire des gros plans au théâtre, ce qui est très important aussi, de savoir focaliser l'attention du public. Tout d'un coup, le public nous voit en gros plan, si on sait le faire. Je pense que d'un côté comme de l'autre, on apprend des choses très, très, très enrichissantes.
Vous tournez donc un certain nombre de films d'auteurs, et puis des films plus commerciaux, des films avec Pulicino, avec Jean-Charles Taquella, avec Richard Berry. Vous vouliez construire une carrière, vous portez au gré des envies. Qu'est-ce qui vous tente? Un scénario, une rencontre avec un metteur en scène, une opportunité, tout bêtement?
Oui, alors je suis vraiment l'opposé des acteurs qui font des plans de carrière, parce que je ne crois pas qu'on puisse faire un plan de carrière, dans le sens où ce qui est très dur à digérer pour un acteur, peut-être le plus dur, c'est qu'on choisit peu, c'est qu'on est choisi. Et ça, bon, après, les acteurs qui aiment bien, on peut toujours dire non, moi j'ai choisi ci, j'ai choisi ça, non. Bon, on a une marge de choix, bien sûr, mais elle est quand même, le choix n'est pas de notre côté. En même temps, je pense que je suis très opposée à l'idée anglo-saxonne de « il faut se donner un but et arriver à ce but coûte que coûte ». Je trouve que c'est quand même un peu dérisoire, toute cette affaire. Et que finalement, de foncer vers un but comme ça, aveuglément, nous fait perdre un tas d'occasions fantastiques qui arrivent par miracle. D'une certaine façon, j'essaye de suivre vraiment l'idée que Picasso a si bien décrite. Je ne cherche pas, je trouve. C'est-à-dire, parce que souvent, quand on est lancé dans une recherche comme ça, on ne voit pas ce qu'on trouve totalement par surprise, par miracle autour de soi. Donc, tout mon travail a été fait. Je ne sais pas très bien où je vais, mais j'essaie d'être attentive à ce qui se passe. Voilà.
Alors, quelles sont les grandes trouvailles de cette période donc de cinéma français? Qu'est-ce qui pour vous a compté le plus?
Français?
Oui, enfin de cette oui avant Hollywood dont on va parler là dans le.
Oui, il y a des gens. Bon, j'étais ravie de travailler avec. Bon, bien sûr, avec Gérard Pulicino, j'étais très contente de toutes ces expériences avec Jean-Charles Taquella, qui est charmant, qui porte le cinéma français, enfin l'histoire du cinéma français. Il a été directeur de la Cinémathèque. C'est quelqu'un lié à la Nouvelle Vague. Ben, c'est tout le charme d'un certain cinéma français. J'étais très contente de travailler aussi avec Didier Le Pêcheur.
Oui, Les Nouvelles du Bon Dieu.
Les Nouvelles du Bon Dieu, c'est un des films que j'ai préféré faire en France. Je trouve qu'il a quelque chose vraiment de comme créateur. Et puis ça a été ma rencontre aussi avec Marie Trintignant. J'étais très contente de cette rencontre. C'était une aventure folle de faire ce film, mais ça, je pense que ça a marqué tous ceux qui en ont fait partie. Et puis c'était très sympa de travailler avec Richard aussi.
Et qu'est-ce qui compte pour vous? C'est ça, c'est la rencontre, c'est le tournage, c'est ce qui se passe, ou c'est le film après? Est-ce que quand vous parlez, oui, de Pulicino, de Taquella, bon, Taquella, c'était pas son film le plus touchant. Pulicino, c'était pas non plus ni très réussi, ni un succès commercial énorme, alors que c'était un film programmé pour. Est-ce que le résultat comme ça peut abîmer l'aventure, ou ce qui compte pour vous, c'est ce qui se passe?
Je n'y pense pas du tout au résultat.
Ni pendant, ni après, ni...
Ah non, pas, vraiment pas du tout.
Vous les voyez quand même une fois que c'est fini?
Je les vois en général, je les vois. Mais non, c'est vraiment des rencontres. Oui, j'essaie quand même que ce soit sympa de vivre.
Et on peut le sentir pendant ce que va devenir un film? Et non, ça, vous avez eu le sentiment que ça allait être totalement raté, ou qu'au contraire, là, il y avait...
On se gourre beaucoup, je trouve. Il y a eu des films que j'ai faits, je ne dirais pas non, mais ce n'était pas avec des Français, où on avait tous l'impression de faire une œuvre génialissime, c'était imbuvable. Et d'autres films, on est très agréablement surpris, où peut y avoir une ambiance terrible, à couper au couteau. On peut être malheureux pendant le tournage et après découvrir un grand film.
Ça vous est arrivé, ça, d'être malheureuse pendant un tournage et après que...
En général, je suis plutôt heureuse. Oui, sur les... Je suis pas... Mais... Non, oui, il y a eu... Non, il y a des films qui sont quand même... difficiles à faire. Parfois... pour des questions simplement climatiques,
oui.
voilà, c'est pas vraiment, c'est dur, mais et après on a des bonnes surprises.
Oui. Vous avez le sentiment d'appartenir à une famille dans le cinéma français ou
non.
Ou d'être non, ni ailleurs ni dans le. Vous avez tourné où avec?
Non, j'ai l'impression d'appartenir à une famille du cinéma,
oui.
Mais pas. Français nécessairement,
oui.
Parce que je pense que c'est vrai que je suis liée au cinéma d'auteur, même si tous les films que j'ai faits ne sont pas d'auteur, mais encore que, je pense que tous les réalisateurs avec qui je travaillais avaient un point de vue d'auteur, parfois dans un schéma un peu plus commercial. Je n'ai jamais eu le sentiment de faire un film qui était un pur produit industriel, ça, oui. Ça non en fait.
Comment s'est fait le saut vers Hollywood? D'abord, est-ce que c'était un rêve ou là aussi ça a été une opportunité? Donc, vous avez tourné Henri et June, dans le film de Philippe Kaufman qui raconte le triangle amoureux entre Anaïs Nin, Henri Miller et sa femme June. Et puis, vous avez tourné Pulp Fiction, qui est sans doute votre rôle le plus connu, en tout cas celui qui est devenu le plus culte, comme on dit. Aujourd'hui, si vous pouvez nous raconter alors comment s'est fait ce passage et un peu l'aventure de ces deux films.
Alors, il n'y a jamais eu de saut parce que je n'ai... C'est ça, j'ai jamais eu le rêve américain. Comme je suis arrivée au cinéma un peu comme ça, pas du tout par les icônes, mais par une aventure personnelle. Les films américains, c'était pareil, exactement pareil. J'étais à Paris, étudiante au conservatoire, je crois bien encore, où je venais juste de terminer le conservatoire. Quand Philippe Kaufman cherchait le rôle d'Anaïs Nin pour le film qu'il a tourné ici à Paris, et il se trouve que j'ai une grande ressemblance physique avec Anaïs Nin, à ce point que dans le film, il y avait parfois, quand il y avait des photos dans le film, parfois c'était des photos d'Anaïs Nin, parfois c'était des photos de moi, et comme ça, sans ils utilisaient l'une ou l'autre indifféremment. Et ça, ça a été vraiment une très très belle expérience, parce que là, j'étais en contact avec un cinéma vraiment de luxe, parce que j'avais été en contact avec des grands artistes qui n'avaient pas de moyens.
Oui.
Et là, j'étais en contact avec des grands artistes qui avaient les moyens de faire ce qu'ils voulaient exactement.
Et c'était pas étouffant non plus?
Pas du tout.
Non,
non, non, c'était libératoire. Et peut-être que j'avais été suffisamment préparée par le travail avec Jean-César Monteiro pour affronter l'univers qu'on considérait torride d'Anaïs Nin. J'avais 20 ans.
Ouais.
Mais ça ne m'a pas fait peur. Je sais que, par exemple, Uma Thurman, avec qui je travaillais, elle était plus jeune, comme elle avait 19 ans, et elle était un peu... C'était un peu dur pour elle, ces relations amoureuses, la sensualité du film, etc. Pour moi, ça m'a plutôt amusée.
Et incarner Anaïs Nin, ça a été, vous avez tout lu, vous avez,
j'ai essayé quand même de faire mon boulot.
Oui, oui, non, mais il y a des actrices qui mettent en avant la spontanéité, quel que soit le rôle, et vous non, c'est quand même le côté acteur studio qui était de.
Non, c'est quand même. Il y a une responsabilité à assumer le rôle d'une personne et d'un artiste qui a une trajectoire, qui a une histoire, qui a une œuvre, et bien sûr qu'il faut la connaître, bien sûr.
Et Pulp Fiction alors?
Pulp Fiction, c'était une rencontre au festival d'Avignon. De cinéma, ça ne s'appelait même pas festival, ça s'appelait workshop. C'était une rencontre de cinéma indépendant américain et après c'est devenu aussi européen. Mais à cette époque-là, cette année-là, c'était franco-américain. qui a cessé d'exister cette année. J'en suis bien triste. C'était fait par Jerry Rudess et pendant 25 ans, cet homme, Jerry Rudess, qui est un Américain installé à Avignon, a fait venir certains des plus grands talents du cinéma américain à Avignon, dans une ambiance très très bon enfant, comme ça. Et cette année-là, qui était je crois 93 ou 92, il y avait Quentin Tarantino qui venait montrer son premier film Reservoir Dogs, qui était déjà un très très bon film, mais il était tout indépendant, comme ça, c'était un de ses premiers voyages en Europe. Il y avait Alex Rockwell, il y avait Arnaud Desplechin, il y avait Arnold Barcus, il y avait vraiment une série comme ça de jeunes talents des deux côtés de l'Atlantique, tout à fait étonnante. Et voilà, on regardait des films ensemble, il y avait un dialogue qui était très ouvert entre tous, il y avait une grève des transports qui était un grand classique en France, qui a fait que les gens se sont rapprochés encore plus parce qu'il fallait prendre les mêmes voitures, etc. Et après, j'ai retrouvé Tarantino dans un festival beaucoup plus gros à São Paulo. Et je dois dire qu'aller dans un festival de cinéma avec Tarantino, c'est merveilleux parce que c'est vraiment un cinéphile. C'est une éponge, il s'intéresse à tout. Il m'a fait découvrir des films à São Paulo que je n'aurais jamais vus si ce n'avait été... On avait vu un film dans le même jour de Satyajit Ray et un film un Tatsuo. C'est des films de... C'était Tatsuo 2, c'était les films de d'horreur. Oui. Les films de terreur, d'horreur japonais. Fantastique, où il y a des gens, tout d'un coup il y a des canons qui sortent des corps, c'est des trucs improbables que je lui suis reconnaissante.
Qui l'ont quand même plus directement influencé que Satyajit Ray.
Et je pense qu'il a vu avec autant d'attention et autant de disponibilité, et l'un et l'autre. Et ce qui est fou, c'est qu'il avait vu Henry and June, pas du tout son genre de cinéma, il a pris les mêmes actrices. Et ça lui avait beaucoup plu. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très, très curieux de tout type de cinéma.
Et vous aviez senti, là, pendant le tournage, ce que ça allait devenir ou...
Non, alors voilà, après j'ai reçu le scénario de Pulp Fiction et je me suis dit, c'est un truc génial parce que j'ai trouvé que c'était très proche de la littérature, que c'était très osé. Quand on pense, bon, il suffit de voir 5 films américains à la suite pour voir qu'ils sont tous écrits, les scénaristes sont écrits selon une recette très, vraiment très spécifique. À telle minute, il faut ci, à telle minute, il faut ça, c'est vraiment carrément minuté. Pulp Fiction donnait un coup de pied complètement dans toutes ces règles. C'est, tout d'un coup, c'était une écriture d'une sophistication qui jouait avec le temps, avec la narration, avec les modes d'approche des personnages, des dialogues. Enfin, vraiment, il bousculait toutes ces pseudo-règles comme ça de vente. Et c'était très, très bien écrit. D'ailleurs, le texte n'a pas du tout été changé. C'est le genre de texte que les acteurs ne changent pas d'un iota. Je me suis dit, ça c'est absolument génial, il faut faire ce film, ce que je ne soupçonnais pas. Je pense que quand je m'intéresse à un film, il ne va pas marcher, de toute façon. Je pense plutôt à l'envers. Et j'étais bien surprise. Et c'était une bonne surprise, parce que ça veut dire que finalement, l'audace paye. Et ça vient complètement à contre-courant de ce que nous prônent tous les producteurs, où il faut faire du remâché à chaque fois. Au contraire, c'est quand on a le courage de rompre toutes ces pseudo-règles qu'on fait un truc qui, non seulement ça marche, mais c'est quelque chose d'important.
Dans Le Bal des actrices, là, qui est un film qui est sorti récemment, on voit Jeanne Balibar qui est elle aussi une image beaucoup plus cinéma d'auteur.
Son papa était mon prof de philosophie.
C'est vrai,
à un moment,
Étienne. Et on la voit qui prétend, parce que c'est pas sûr que ça soit vrai, rêver de jouer dans les Rambo et autres. Est-ce que vous, faire une incursion dans ce cinéma industriel, ça vous a tenté ou jamais?
Pour moi, ce serait un rêve bancaire, simplement.
Oui.
Voilà.
Et donc, pour l'instant, vous n'avez pas eu besoin de rêver.
Mais ça me permettrait de faire d'autres trucs à côté pour peu d'argent.
Oui, à ce niveau. Alors, vous avez également tourné dans un cinéma qui est beaucoup moins bancaire, qui est le cinéma portugais.
C'est carrément pas bancaire.
Oui, mais c'est marrant parce que un système de production assez particulier, parce qu'on a l'impression que comme le marché national est incapable de toute façon de rembourser un film, donc la seule existence possible, c'est les festivals internationaux et les distributions internationales, ce qui amène à la production de films d'auteurs extrêmement pointus. Et en fait, je crois qu'il n'existe pas vraiment de cinéma commercial très portugais, très grand public, et qu'au contraire, on a des auteurs dont Montero et dont bien sûr Manuel de Oliveira, qui eux sont diffusés un peu partout. Alors parlez-nous un peu de Oliveira, donc de votre rencontre avec lui, Manuel de Oliveira, qui, on en parlait tout à l'heure, est un personnage assez étonnant, puisqu'il a fêté l'an dernier ses 100 ans, qui continue de réaliser à peu près 2 films par an, et que dans le dernier, donc, il a écrit, réalisé, et dans lequel il joue, il est stupéfiant. Donc comment s'est fait cette rencontre? Et puis, est-ce qu'on peut échapper aussi, quand on a envie d'être dans le cinéma portugais, à Oliveira? Est-ce qu'il n'a pas, comme Bergman pour la Suède, comme une espèce de figure aussi écrasante à partir de laquelle tout cinéaste doit, pour ou contre, se définir plus ou moins?
De mon point de vue, Manuel de Oliveira est tout sauf écrasant. Manuel de Oliveira est l'image de la légèreté pour moi. Et c'est ça qui est magnifique, parce que c'est quelqu'un qui a une place énorme dans le cinéma portugais, mais il n'impose absolument rien. Aussi dans le cinéma portugais qui est très médisant, c'est quelqu'un, je ne l'ai jamais, jamais il ne médit, il n'a jamais aucun, il laisse, c'est vraiment quelqu'un qui est l'image de la liberté, de la légèreté, pour moi. Et ce que tout son cinéma affirme, c'est la liberté de création. Alors, Manuel, je le connais depuis très longtemps, depuis le moment où j'ai commencé à tourner avec João César Monteiro, parce que João César admirait Manuel. Et donc, c'est une figure presque comme un grand-père, là aussi, pour moi. Et j'avais fait un premier film avec lui qui s'appelait La Divine Comédie, oui, qui n'est pas un de ses meilleurs, je trouve. Non. Et après, par contre, j'ai fait une aventure plus récemment avec lui que j'ai adoré, qui était Porto de mon enfance, qui est un documentaire qu'il a fait sur lui et sur lui à Porto, qui est sa ville. Et il avait écrit une scène où il jouait lui-même dans un théâtre d'époque, et je jouais l'actrice qui était avec lui. Et c'était tout à fait charmant. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre de Manuel? Maintenant, je ne sais plus.
Est-ce qu'il est de la même exigence sur un plateau que ces films qui sont cadrés au millimètre près, très, très austères, très, et en même temps, quand on le voit lui qui joue, on a l'impression de quelqu'un de beaucoup plus gai, vivant, voilà, drôle.
Oui, c'est absolument. Il y a une vivacité, une drôlerie qui est évidente chez lui. Et c'est ça que je voulais raconter. Je trouve que ce qui me passionne chez lui, c'est son rapport au temps. Parce que c'est un athlète. Il a toujours été très, très sportif, très beau gosse. Et il a fait tout un tas de différents sports. Et il était un passionné de vitesse. Un des sports qu'il a fait, c'était la course automobile. Et il conduit toujours très très vite. Il a 100 ans et très bien. Et son rapport au temps est incroyable, parce que maintenant qu'il a 100 ans, c'est un homme de plus en plus pressé. Par exemple, bon, quand on lui fait des rétrospectives, ça l'angoisse beaucoup. Il dit mais je n'en suis pas à la moitié de mon œuvre. On va déjà faire une rétrospective. Et par contre, dans ses films, de cet homme qui est décidément un homme pressé, qui fait presque 2 films par an, ce que personne n'arrive à faire, il a un étirement du temps qui est incroyable. Il a vraiment tout, je pense que et sa vie et son œuvre est une réflexion et un travail sur le temps.
Mais c'est amusant, parce qu'il y a certains comme ça, cinéastes très âgés, dont on a l'impression qu'ils s'emballent en fin de carrière. Clint Eastwood, pareil, qui réduit de plus en plus, là il est à quoi, 80 ans maintenant, qui réduit de plus en plus les délais entre ses films, et comme si à peine il en a fini un, il y en a un autre qui est déjà en production et prêt à partir, comme s'il y avait un côté fuite un peu, et
absolument,
l'envie de...
Et puis voilà, il y a tellement de choses à dire qui arrivent tout d'un coup. Et là, on a fêté en décembre dernier à Porto d'ailleurs son 100e anniversaire. Certains disent que c'est son 101e anniversaire parce qu'il y aurait
Il aurait menti pour faire plus jeune.
Non, en fait, il serait plus vieux qu'il n'est. Ah, ouais. Parce qu'il y a un doute sur sa date de naissance. Enfin, on va dire 100 ans parce que c'est ce qui est officiel. Et il a dit, non, j'ai pu venir parce que j'ai réussi à terminer mon mixage, mais là, je repars là. Bon, il a trouvé un moment quand même entre deux pour venir à son anniversaire. Mais voilà, il est déjà parti sur plusieurs autres projets.
Alors, il y a une autre cinéaste portugaise dont le film a pas mal tourné autour du monde, c'est vous, puisque vous avez, après donc vos courts-métrages, réalisé un premier film, Capitaine d'Avril, qui je crois était un gros succès au Portugal, et qui raconte la révolution des œillets de manière assez étonnante, parce qu'on a l'impression, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, d'un moment de liberté totale, avec des scènes totalement surréalistes, comme celle où l'armée de la Révolution en marche s'arrête à un feu rouge pour laisser passer. Donc, pourquoi cette envie de raconter cette révolution ?
Alors, cette envie est vraiment venue de l'enfance, de l'expérience de l'enfance. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en arrivant d'Autriche, je venais de l'ordre, de la propreté autrichienne. Et ma première réaction en arrivant dans cette euphorie à Lisbonne, où on était entraîné dans les manifestations, il fallait embrasser des milliers de personnes, alors qu'en Autriche, on s'embrasse pas. Et on était là à faire des bisous à 15 000 personnes, des gens poilus, tous avec plein de barbe et voilà, et tout ça me rebutait, la ville était sale. Donc ça m'a pris un certain temps à comprendre ce que j'avais vécu et l'importance de ce que j'avais vécu de si près finalement. Et c'est après après mon arrivée au cinéma, je me suis dit non, vraiment ça a été une chance fantastique de vivre ça, il faut que je le raconte. Et là, c'était le début d'une longue aventure puisque j'ai commencé à faire des interviews à Salgueiro Maia, qui est le protagoniste du film et qui est mort en 92, quand j'avais 20 ans. Et ça a été 13 ans de travail pour faire le film. Parce que j'ai présenté très très souvent le projet pour avoir les sous, mais il y avait un blocage terrible par rapport à ça.
Un blocage doux, parce qu'a priori c'est quand même une page d'épopée nationale
voilà,
qui devait...
Voilà, mais c'est pas évident du tout au Portugal ça. Ouais. Moi je pense que les Portugais ont tout lieu d'être très fiers de cette période, peut-être celle dont ils peuvent être le plus fiers. Et pourtant, il y a comme une réticence. Alors, le fait que là, ça, c'est curieux. Autant j'ai été bien reçue dans les casernes par les militaires pour préparer le film, autant dans le cinéma, la presse, ça a été un problème que je sois une femme, que je sois d'une autre génération, que je sois plus jeune, que je m'approprie ce thème dont personne n'avait vraiment
traité
avant.
N'avait revendiqué, oui. Voilà. Et l'accueil du public a été, lui, au contraire...
L'accueil était très bon, mais je ne m'attendais pas... l'accueil de la presse était très violent, extrêmement violent. Ouais. Et là, je me suis aperçue de quelque chose de très intéressant. C'est à quel point l'histoire est subjective. Ouais. Parce que dans le film, mon parti pris était vraiment de raconter la révolution des militaires, de ceux qui l'ont faite. Mais tout ça est complexe parce qu'il y avait eu... 50 ans de dictature au Portugal, avec une résistance civile de gens extrêmement courageux qui se battaient, qui étaient emprisonnés, qui étaient torturés, qui étaient exilés, qui avaient essayé très souvent de faire des coups d'État sans y arriver. Et tout d'un coup, ces soldats qui venaient de la guerre coloniale, qui étaient détestés, ils étaient détestés de toutes parts, ils étaient très jeunes. Ils étaient détestés par les colons parce qu'ils disaient qu'est-ce que c'est que c'est nul. 13 ans de guerre coloniale quand même, hein, c'est long, dans des immenses territoires, Angola, Mozambique, Guinée-Bissau. Et donc les colons disaient ils sont nuls, ils n'arrivent à rien, donc ils étaient détestés. Ils étaient détestés par les gens de la gauche au Portugal parce qu'ils étaient au service de la répression et du gouvernement. Et tout d'un coup, c'est eux qui, grâce justement à leur expérience de guerrier même s'ils avaient une expérience de guérilla dans la brousse et pas urbaine, avec ce qu'ils ont vécu en Afrique, avec leur capacité d'organisation, ils y réussissent. Ce que la gauche civile n'avait jamais réussi. Et en plus.
Ils se sont échoués un peu.
Non, ouais. Et en plus, ils offrent le pouvoir, ouais, à cette gauche-là. Il y a, moi, j'y vois presque un sentiment d'Édipe. On ne veut pas savoir d'où nous vient ce pouvoir. Et alors, il y a toute une partie de la population qui s'est forgée sa propre révolution des œillets, dans laquelle ils ont absolument le premier rôle. Et évidemment, c'est pas le film qu'ils ont vu. Ils ne se sont pas vus eux, oui, comme premier rôle. Moi, j'ai donné le premier rôle à ceux qui étaient dans la rue, à se demander s'ils devaient s'arrêter au feu rouge ou pas, parce que ça, c'est vraiment le type de problème qu'ils ont eu. Et tout d'un coup, ça m'a valu. Et j'étais pas du tout préparée à ça. À 30 ans, des insultes, ouais, d'une violence incroyable.
Et ça a été douloureux ou au contraire?
Oui, ça a été dur. Ça a créé une distance. J'ai mis une distance entre le Portugal et moi parce que ça a été vraiment très inespéré et très douloureux. Par contre, ce qui était très intéressant, là aussi, je ne savais pas, c'est que j'avais fait ce que j'appelle un film de Noël, dans le sens où le jour de Noël. On passe toujours le même genre de films, on passe des films de Charlie Chaplin, on, ouais, passe, voilà. Et le 25 avril, il n'y avait rien pour passer à la télé. Et tout d'un coup, il y a mon film qui passe tous les ans le 25 avril à la télévision. Donc maintenant, c'est devenu comme un classique, ouais, et maintenant tout le monde l'a vu, voilà.
Vous avez fait un documentaire dont on va parler, qui d'ailleurs découle peut-être de cette expérience avec la critique. Non. Mais vous n'avez pas tourné de second film de fiction, ça aussi, c'est les circonstances. C'est cette expérience qui était trop difficile ou pour que vous replongiez. Ou c'est juste des difficultés de production dans un système.
Non, en fait, c'est aucune de ces raisons. Je suis en train d'écrire, oui, mais je prends beaucoup de temps parce que je fais l'actrice. Donc, comme je suis très occupée avec mon travail d'actrice, voilà, pour le moment, j'ai pas fait d'autres fictions, mais je suis en train d'en écrire deux et j'espère. Oui. Maintenant, j'ai très envie d'en refaire une. J'ai fait un long métrage de documentaire, oui, entre temps, et des petites choses par-ci par-là, parce qu'en fait, je fais la réalisation un peu quand je peux caser ces zones de travail.
Et vous les produiriez où, au Portugal?
Je suis en train d'écrire
France,
un film pour le Brésil, oui, que j'espère faire très vite. Et un autre que j'aimerais tourner en France, oui, c'est sur l'histoire de la France d'ailleurs.
Et est-ce qu'il y a des, comme on l'a dit, on l'a vu avec l'appel de Pascal Ferrand, donc, et je pense que vous vous rangez dans cette catégorie de films, effectivement des difficultés de production de plus en plus grandes en France aujourd'hui pour ce qu'on appelle les films du milieu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des films tournés, absolument, dans une chambre avec deux personnages et qui ne sont pas non plus des gros budgets et...
Voilà, les films du milieu, les classes du milieu, c'est ça, dans les systèmes super capitalistes, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus de classe moyenne, donc oui, voilà, il y a de la place pour les très très riches, et puis il y a toute une zone, et moi je compare vraiment ça à la société, de la société ou des films qui sont paupérisés au maximum. Et c'est, oui, c'est vraiment dommage parce que c'est l'anti-civilisation pour moi, ça.
Oui, oui. Ouais, tout à fait, qu'il n'y ait plus rien entre Nicolas Klotz et les bronzés.
Oui.
Alors, votre second film, qui est un documentaire très drôle, où vous explorez, qui s'appelle Je t'aime moi non plus, titre qui avait déjà servi, qui raconte les rapports entre la critique et les cinéastes.
Et les artistes, oui.
Donc, vous interrogez un certain nombre de grands cinéastes, un certain nombre de critiques. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Donc, ce n'est pas le souvenir, vous, d'une expérience un peu
douloureuse? Non, parce que ce qui m'a... ce qui a été douloureux pour moi, c'était pas la critique de cinéma, c'était des choses qui justement visaient autre chose que le cinéma. Par exemple, le droit d'une jeune femme de parler de certaines choses qui seraient réservées aux grands pontes de je sais pas quoi d'ailleurs. Et non, la critique ce qui m'a donné envie de faire le film sur la critique, c'était mon expérience en tant que critique, entre guillemets. C'était ma première expérience comme jury à la Caméra d'Or au Festival,
oui,
de Cannes.
Oui.
Et là, c'était très très amusant. Bon, la Caméra d'Or, c'est très amusant à faire parce que Le jury voit des films dans toutes les sections. Il s'agit de donner le prix au meilleur premier film. Et donc, on voit dans la sélection officielle, certains regards, quinzaine, semaine de la critique. Et on se balade comme ça dans toutes les sections. Et là, on côtoie absolument les critiques. Et je me suis retrouvée et je me suis dit, tiens, les critiques, on ne sait pas, on ne connaît pas leur visage. Et tout d'un coup, ils étaient assis là à côté. Et je me suis souvent retrouvée dans les mêmes lieux, les mêmes espaces avec eux. Et souvent, j'étais assez émerveillée, je dois dire, de la passion avec oui. laquelle ils discutaient. Ces gens-là qui voient des milliers de films par an, qui en voient 5 par jour, ils arrivent à garder cette fraîcheur qui fait qu'ils peuvent encore se passionner, se bagarrer les uns avec les autres sur un film. Et j'ai trouvé ça très, très, très amusant. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce film qui, d'un côté parle de la relation qui est une non-relation de passion entre artiste et critique qui est exacerbée évidemment à Cannes, et j'ai pensé que c'est quand même assez étonnant comment arrive un critique dans la vie d'un artiste. En fait, je voulais faire d'abord toutes les branches de l'art, mais je suis revenue de Cannes avec 80 heures de rush, et donc je me suis dit bon, je prends le cinéma comme paradigme. Et c'est vrai que les autres arts ont pu s'y reconnaître aussi un peu. Mais donc le réalisateur arrive là avec son film et tout d'un coup il y a un petit texte, parce qu'en général il n'y a pas beaucoup de place pour les critiques dans les journaux, donc c'est un petit texte avec une signature. Et ce petit texte, il fait irruption dans la vie de l'artiste, soit il provoque un transbordement de passion, de reconnaissance chez l'artiste démesuré, soit une haine profonde, mais en tous les cas quelque chose de très intime. Et c'est une signature, c'est un nom sans visage. Donc j'ai essayé de fouiller ça, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé aussi à un psychanalyste de commenter ça. Et finalement, en abordant cette relation ou non-relation du point de vue passionnel, ça a beaucoup libéré la parole chez les uns et chez les autres. Et je suis très reconnaissante parce que finalement, artistes et critiques se sont exprimés de façon très, très ouverte. Ils ont raconté leur traumatisme, quand ils se sont pris des points sur la gueule, quand ils se sont endormis pendant les films. Enfin, toutes sortes d'histoires vraiment très cocasses qui sont évoquées très librement.
Oui, c'est vraiment, c'est un film qui, à la fois, il y a des moments un peu cruels quand, par exemple, vous filmez Anne Lara, qui est une attachée de presse, qui est là comme une cruche sur un escalier à attendre un rendez-vous qui ne vient pas en compulsant ses papiers, ou quand vous arrivez à mettre Serge Kaganski, donc critique redouté des Inrecuptibles, que vous filmez au lit en permanence.
Oui, l'idée c'était finalement, parce que je montre aussi par exemple Manuel d'Oliveira, c'est-à-dire quand on arrive à Cannes, on est livré en pitance à la presse. On est entre leurs mains. Et c'est un jeu. Hein. C'est, d'ailleurs, Christophe Honoré parle du cirque romain. Oui. Et c'est vrai, c'est un jeu assumé, accepté par les uns et par les autres. Et quand on est comme ça en promotion, il y a effectivement une séquence où on voit Manuel d'Oliveira qui est pris, ou à Tom Egoyan qui est pris par les photographes et faites ci, et faites ça, et tenez ci, et voilà, et on est mis en scène par la presse, et la presse tout d'un coup assume ce côté de mettre en scène les artistes. C'est super intéressant comment la chose est retournée, les metteurs en scène sont mis en scène par la presse. Et moi j'ai essayé de retourner encore une fois la situation, dire puisque c'est comme ça à Cannes, on met en scène les gens qu'on interviewe, donc je vais vous mettre en scène aussi. Et Serge Kaganski a accepté, d'ailleurs comme tout le monde a accepté le jeu, et j'ai dit, bon, comme votre interview, on ne peut la planifier qu'à 1h du matin, est-ce que vous acceptez d'être au lit? Il a dit, bon, finalement, après discussion, il a accepté.
Ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, on vous voit essayer.
Oui, on va négocier un peu.
Ouais. Bon, écoutez, merci beaucoup. Il nous reste une demi-heure, donc on va revenir sur d'autres aspects, dont la musique, qu'on n'a pas encore parlé. Mais avant, je voudrais, s'il y en a d'entre vous qui ont envie de poser une ou deux questions, vous donner la parole. Donc il y a une dame avec un micro. Oui, monsieur, là. Attendez. On va vous passer, voilà, il arrive, vous passer un micro, que tout le monde en profite.
Quelle est votre langue maternelle ou vos langues maternelles? Quelle langue parlez-vous?
À mes enfants, je parle portugais. Mais je me sens totalement bilingue. En ce moment, d'ailleurs, j'ai la double nationalité française et portugaise.
Vous êtes resté combien de temps en Hippocagne? Regrettez, vous retournez-vous vers la philosophie de temps en temps maintenant?
Je ne suis pas restée très longtemps. Je suis restée l'année. Et d'ailleurs, je me demande même si je suis restée l'année. Et j'aimerais revenir à la philosophie, bien sûr. Oui, je pense que c'est une grande lacune.
Et c'est pas possible.
Mais on peut toujours y revenir, c'est ça qui est bien. Oui.
Queria saber como, porque Maria de Medeiros não se lançou no Brasil, que era quase a língua maternal, e ela ficou a lecar da música brasileira, da época dela. Então, como a música brasileira foi tão lançada aqui na França como em outros... Ah, je parle portugais.
Oui, si
en
vous
fait,
êtes...
je suis une grande amoureuse du Brésil. Si, madame me demandait sur ma relation...
Si vous pouvez traduire la question
madame,
avant.
Si j'ai bien compris, me demande ma relation avec le Brésil. Oui. Et je suis très... Oui, je suis très fascinée par le Brésil. Et en fait, j'ai fait deux films au Brésil, dont l'un cette année, qui s'appelle O Contador de Histórias, le conteur d'histoire. Et j'avais fait, il y a 10 ans, au Xangô de Baker Street, de Jô Soares, de Miguel Faria, mais écrit par Jô Soares. Et j'ai beaucoup de relations avec la musique brésilienne. D'ailleurs, mon premier disque, c'est de la musique brésilienne, mais c'est les chansons de résistance à la dictature militaire au Brésil.
Oui, madame, allez-y.
C'est cette génération de Chico Buarque de Oliveira, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Maria Bethânia. Então, acho que você poderia ter se lançado com esse grupo de brasileiros. O Brasil é um conepá. Por que você tinha resté um peu à l'écart?
Les artistes que vous avez mentionnés, Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, ils ont l'âge de mes parents. Hein,
oui, excusez-moi.
J'aurais pas pu travailler en même temps. Enfin, si, ils restent d'une créativité incroyable, mais bon, c'est pas du tout la même génération. Et mon aventure musicale est très récente. Hein, ça a commencé il y a un an et demi seulement. Mais c'est sûr que eux sont les artistes qui m'impressionnent le plus encore aujourd'hui.
Et justement, alors cette aventure musicale qui a démarré avec un premier disque qui s'appelait Little More Blue, a été beaucoup plus influencée par le Brésil que par exemple le fado, qui est la musique portugaise par excellence. Qu'est-ce que ça incarne pour vous, le fado?
Alors, j'ai un rapport avec le fado qui a à voir avec la génération à laquelle j'appartiens. Et finalement, toute mon enfance, je n'ai jamais écouté de fado. Le fado, pour les gens un peu du milieu de mes parents, était très connoté avec le régime, même si c'est un peu injuste. Et donc, j'écoutais uniquement de la musique classique. J'étais analphabète en dehors de la musique classique. Par contre, la musique classique, je connaissais très bien. J'écoutais tous les jours Stravinsky, Mahler, Stockhausen, Schoenberg, Shostakovich, je sais pas, vraiment tout. Mais je savais pas qui étaient les Rolling Stones, ni les Beatles. Et c'est en rentrant, à Lisbonne avec la révolution des œillets que j'ai découvert de vastes horizons musicaux. Le rock, le jazz qui m'a beaucoup influencé et la musique brésilienne. Et à l'époque, c'était principalement la musique les chansons écrites en résistance à la dictature militaire. Et pour nous, c'était très jouissif, pour nous portugais, parce que parlant la même langue, on pouvait profiter de la richesse poétique de ces chansons de Chico Buarque et de Caetano Veloso ou Gilberto Gil qui ont été écrites pour passer à travers les mailles de la censure. Et nous, bien sûr, au Portugal, on était aux premières loges parce qu'on pouvait apprécier tout le côté ludique de comment le message arrivait sans pouvoir être réprimé.
Et votre premier disque est un hommage à
ces chansons-là, qui sont surtout des années 70, fin des années 60-70, mais qui restent, enfin, je pense que c'est pour encore aujourd'hui, pour les Brésiliens, pour les Portugais, pour les gens qui comprennent leur contenu, ça reste des chansons vraiment magnifiques qui ont beaucoup d'importance pour nous.
Vous les avez chantées sur scène, c'est très différent d'être sur scène pour chanter que,
oui. Alors, l'idée,
qu'au théâtre pour jouer.
Non, pour moi c'est très semblable. Et l'idée donc de faire avant le disque, l'idée était de faire un petit spectacle pour la France. Qu'on a fait d'ailleurs au Théâtre de la Bastille, où j'ai traduit tous les textes, parce que pour moi la musique brésilienne est indissociable de son contenu. C'est des mélodies sublimes qu'on connaît, souvent on les connaît même avec des paroles françaises, mais on ne connaît pas les paroles initiales qui sont splendides. Et donc j'ai fait tout ce travail de traduction et le spectacle était à moitié parlé, et toujours je dis les textes dans la langue du pays et je chante en portugais. Je dis ça parce qu'entre-temps, ce spectacle s'est beaucoup internationalisé. Oui. On le fait beaucoup. Je pars demain le faire en Espagne. On l'a fait très souvent en Espagne, en Italie. Mais bon, c'est rock'n'roll, hein, je dois dire, de faire un spectacle bilingue. Pour le moment, j'arrive à le faire avec le français, avec l'espagnol, avec l'italien, mais je vais m'arrêter là,
compliqué.
Je crois.
Je ne sais s'il y a d'autres... Oui, madame...
Je voulais vous demander, est-ce que vous faites la peinture ou finalement vous avez fait la peinture? Maintenant, je comprends qu'il n'y a pas le temps.
Oui, c'est vraiment une question de temps. Pour le moment, je ne fais pas. Je rêve de le faire un jour, mais peut-être qu'un jour, peut-être ce jour-là, je vais découvrir qu'en fait, ce n'était pas fait pour moi. Je ne sais pas.
Si la peinture, si sur la peinture, s'il y avait... Levez haut la main, ouais, si... voilà.
Oui, bonsoir. Moi, j'aurais une question en fait par rapport à Henry and June, parce que Anaïs Nin, en fait, c'est un auteur que j'aime beaucoup, et je voulais savoir comment vous, en fait, à 20 ans, enfin, vous étiez très jeune, comment vous êtes rentré dans cet univers, et est-ce que ça a eu, enfin, quel impact, enfin, c'est un peu personnel, mais quel impact ça a pu avoir sur votre vie, enfin, de femme après, parce que c'est très particulier. Enfin, moi, je sais que ça a été une expérience. Assez bouleversante rien que de lire ses écrits. Oui. Donc le fait de... J'imagine qu'à 20 ans, ça n'a pas dû être anodin, en fait.
Oui, oui, vous avez raison. Non, c'était... Heureusement que José Azermontel m'y avait préparé un peu. Mais moi, j'avais 20 ans, mais le personnage dans le film, pendant cette période de trio amoureux avec Henry Miller et June... Elle avait 28 ans. Bon, elle était jeune aussi. Et je pouvais m'identifier avec pas mal d'aspects du personnage. Je pense que quand on a 20 ans, c'est le moment où on veut tout essayer. Et puis, c'est drôle parce que Anaïs Nin est la fille d'un compositeur classique aussi, comme moi, catalan, Joaquín Nin. Et elle aussi est trimballée entre plusieurs cultures. En fait, ça s'est fait assez. J'ai pu m'identifier assez facilement à des aspects qui m'ont vraiment aidée à entrer dans le personnage. Je pense que c'est une grande affabulatrice aussi. C'est ça qui est beau, c'est que c'est une femme qui a passé sa vie à se raconter, mais ce récit est aussi une fiction et on s'en fiche si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais voilà, c'est un récit, c'est passionnant.
On vous voit en ce moment dans Vénus et Apollon, qui est une série télé. Quel rôle ça a la télé dans votre parcours? Vous en fichez que ça soit télé, cinéma ou c'est aussi un public tellement plus vaste film.
Non, en fait, j'ai fait très peu de télé. J'ai fait Vénus et Apollon, saison 1, et maintenant saison 2.
Oui.
Parce que j'aime beaucoup Tony Marshall. C'est bon, c'est Arte, c'est télé quand même spéciale.
Oui.
donc il y a il y a un critère, il y a une exigence. Et puis parce que on adore travailler ensemble, notre petit quatuor là. quand on nous a proposé la deuxième saison, on était toutes partantes parce qu'on a vraiment, on dirait ces discours tout faits comme ça pour la promotion, mais non, c'est vrai, on se retrouve vraiment avec plaisir.
Vous êtes sensible à ce phénomène de série télé qui prend là une proportion énorme. On a l'impression aussi que se réfugie une grande part de créativité, oui, qui est totalement absente du cinéma, au moins de grande consommation américaine. Comme spectatrice, vous les regardez,
fait,
non.
Non, en fait, je regarde très peu la télé, mais je suis sensible à ça. De temps en temps, je chope dans les hôtels, je chope un peu, et je m'aperçois que oui, c'est vrai que le format série permet des audaces que le cinéma, en ce moment, ne permet plus, tout en gardant un format qui atteint un grand public. On peut se permettre des audaces dans le cinéma, mais on est condamné à avoir une salle.
Oui.
Donc, c'est intéressant ce qui se passe dans les séries, effectivement. Mais je n'arrive pas à
les suivre vraiment.
C'est drôle. Dans ce sens-là, je suis peu vicieuse. Je m'accroche peu aux choses qui sont faites pour vous rendre dépendant.
Comme spectatrice, vous êtes fanatique, vous êtes compulsive, vous voyez des tonnes de choses. Au contraire, vous sélectionnez beaucoup, c'est un peu au hasard de...
Je crois que je suis fanatique de rien.
C'est
mais
vrai.
Mais j'aime, parce que je pense que le fanatisme est opposé au plaisir. Dans le mot fanatisme était déjà exclu l'idée du plaisir, et que je pense que l'art doit être un moment de plaisir toujours. Donc je regarde, bien sûr j'aimerais voir beaucoup plus que je ne vois. Bon, j'ai deux enfants, ça occupe beaucoup,
oui.
Donc il faut beaucoup faire des choix. Ce qui est super dans le cas des gens qui sont dans le cinéma, c'est de pouvoir aller dans les festivals, parce que là on voit 25 films d'un coup. Et souvent, voilà, on brasse comme ça. Là, cet été, j'étais jury au festival de Lima, qui est un festival de films latino-américains. Et c'était un bonheur absolu pour moi, parce que j'ai découvert, enfin, je savais déjà que le continent latino-américain, enfin, sud-américain, est extrêmement foisonnant du point de vue cinématographique. Mais là, vraiment, j'ai pu voir un panorama général comme ça du continent qui était époustouflant.
Vous êtes bien dans cette position de juge. Là, vous avez été juré à Cannes, donc là, à Lima, à d'autres, visiblement. C'est...
Non, je n'aime pas beaucoup être juge, mais c'est un jeu. Je le prends vraiment comme un jeu et comme un moment de plaisir et de découverte. Après, le moment de juger, c'est le moins rigolo.
Oui, oui.
Oui.
Et vous découvrez beaucoup de choses? Parce qu'en fait,
on
voit, enfin, on a un filtre qui trie beaucoup pour nous et... C'est vrai que de plus en plus, on a des films américains, beaucoup, des films français, et puis les productions d'autres pays arrivent rarement.
Voilà, c'est pour ça que les festivals sont quand même très, très importants. Il y en a de plus en plus, mais c'est aussi un symptôme.
Oui.
Parce que c'est une façon pour le public de découvrir un cinéma auquel ils n'ont plus accès dans les salles normalement. Et vraiment, on découvre.
Oui.
Oui, moi je recommande d'aller dans les festivals.
Vous avez été jugé, vous aussi, et plutôt bien, parce que vous avez eu un grand nombre de prix, la Coupe Volpi, les Globos de Oro, donc les Globes d'Or, que vous avez eu la chance de ne pas avoir remis par Jean-Luc Delarue, vous. Et est-ce que ça compte, ça? Voilà. Est-ce que ça compte, ces récompenses?
Oh, on est très heureux, bien sûr. C'est... Et puis, ça compte. Je ne sais pas si ça, d'un point de vue de curriculum, ça compte aussi. J'imagine. Je ne sais pas si ça a influencé beaucoup les metteurs en scène. Mais en tous les cas, on est toujours très honorés. On est très, très heureux, bien sûr.
Ouais, ouais. Je ne sais pas si, à nouveau, parmi vous, quelques...
Je vous suggère de vous accoquiner ou de vous associer à Catherine Clément et à tourner un film sur sa Lazare et Goa.
Oui, c'est une bonne idée. Je ne vais pas la lâcher parce que je sais qu'elle est sur un super projet en ce moment.
Catherine, on peut donc déjà annoncer la mise en production? Non. C'est un peu. Vous avez un site internet, bien sûr, comme beaucoup de gens. Il y a une formule dessus. Vous dites vous êtes actrice de votre vie.
Ah bon?
Oui, c'est pour ça. La signification me paraissait un peu.
Je ne sais pas si c'est moi qui ai
écrit abscons, ça. Un peu abscons, mais il semble que pour vous aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Actrice de sa vie, c'est marqué. Hein, j'ai noté.
Ah, c'est pas moi qui l'ai écrit.
Non. Et ça vous
je
dit...
contrôle pas tout ce qui est sur Internet ouais, à mon
dit,
sujet.
Ça vous dit pas grand-chose.
Mais je pense qu'on est, bien sûr, qu'on est acteur de notre vie. Hein. Ceci dit, ça peut se défendre.
Oui, mais en même temps, c'est une formule un peu.
Mais bon, elle n'est pas de mon cru.
Oui, c'est ça. Ça me paraissait un peu creux et pas finalement vouloir dire forcément grand-chose. Vos projets, c'est quoi maintenant? Vous en avez?
Oui, alors voilà, j'écris ce projet pour le Brésil. Je prépare un nouveau disque qui s'appelle Péninsule et Continent. Et c'est sur c'est un voyage musical entre les péninsules latines de l'Europe, c'est-à-dire péninsule ibérique, péninsule italique, et les grands continents africains et américains, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc on y trouve de la musique en kimbundu, de la musique angolaise qui ressemble à du fado, plus ou moins. On trouve du Nino Rota, composition italienne écrite pour le cinéma hollywoodien, de l'espagnol, du catalan aussi. Voilà, c'est un album un peu de voyage.
Et que vous préparez
qu'on est en train de finir.
Oui. Donc vous l'avez, c'est écrit, c'est enregistré.
C'est presque fini d'enregistrer. Ouais.
Je ne sais pas s'il y a une dernière question dans la salle. Oui, monsieur.
Bonsoir. Nous nous sommes déjà rencontrés une fois dans un studio de post-production. J'avais un ami qui était technicien. Nous avons déjeuné ensemble une fois et parlait beaucoup des requins. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode.
Non, mais moi, j'ai peur des requins jusque dans ma baignoire.
C'était derrière la place Clichy.
Où ils sont assez rares, quand même.
Un de mes films préférés s'appelle Swimming with Sharks. Peut-être vous voyez de quoi je parle. Donc, des requins, il y en a partout. Et là, c'est une question personnelle qui n'intéressera peut-être personne dans la salle, mais je vous la pose directement. J'ai traversé l'Atlantique, alors que je ne suis pas marin, sur un voilier. Ça a été une horreur. Moi, j'ai adoré votre film. J'étais fasciné notamment par le fait qu'une si jeune femme et apparemment si frêle maîtrisait quelque chose qui m'a paru, moi, comme une très grosse production. Et l'expérience que j'ai vécue en traversant l'Atlantique et la Méditerranée en 2 mois avec deux fous me paraît un sujet peut-être intéressant pour faire un film.
Mais est-ce que vous avez vu des requins?
J'ai vu des requins, j'ai vu
Est-ce
des
que c'est
dauphins,
rédhibitoire
des baleines de diverses sortes. Wow. Bon, mais c'était pas le propos en l'occurrence. Mais j'ai repensé à vous parce qu'en fait, on est passé par les Açores, on était en perdition, disons-le carrément. Hein. Une avarie par jour sur ce bateau qui était pas antique, mais presque. Et donc, je vais peut-être essayer d'écrire ce qui m'est arrivé. Et je voudrais savoir si y a un moyen de vous contacter, de vous envoyer quelques pages sur... ce sujet, parce que c'est tout le contraire de ce que vous avez fait, qui était, comme je me semble, être une super production, ce que vous avez fait sur la Révolution portugaise. Donc là, c'est un lieu,
clos,
c'est presque une pièce de théâtre. Bon, elle n'est pas du tout écrite, sinon un peu dans ma tête, quoi. Je voulais savoir si...
quand elle sera écrite, je la dirai avec plaisir.
Voilà. Donc, est-ce que je peux avoir, je ne sais pas, une adresse à laquelle...
Après, oui, on...
Parce que moi, je n'ai pas...
On vous donnera. Ça vous fait quand même deux films, c'est plutôt une bonne soirée. Là. Justement, là vous avez plein de projets. Est-ce que vous ne faites pas carrière? Est-ce que vous vous projetez? Est-ce que Marianne Medeiros, dans 10 ans, vous avez une idée de ce qu'elle voudrait avoir fait de...
J'espère avoir fait encore un ou deux films comme réalisatrice.
Oui. Oui. Et puis de revenir ici, alors nous en parler.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Marianne Medeiros. Merci à vous et bonne fin de soirée.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Merci.